Nos usages nous trahissent. Je vous parlais du principe du bocal. Si vous y prêtez attention, et maintenant vous le ferez, lorsque vous ouvrez un lien Internet menant à l'extérieur, l'application ouvre un navigateur Internet maison. Ce n'est pas votre navigateur habituel qui s'ouvre dans votre téléphone, mais une sorte d'application dans l'application, assez peu pratique d'ailleurs. Pourquoi ? Pour que vous visitiez le lien sans quitter l'appli. Pire, les algorithmes font la différence entre un lien de leur écosystème et un autre lien qui ferait partir vos amis qui voient votre poste chez la concurrence. Si vous voulez qu'un poste Facebook fasse un bid, il suffit d'insérer un lien YouTube dedans. Résultat garanti. Je vous ai déjà expliqué que j'étais fan de la technologie. À en croire toute cette partie, on pourrait penser que je mène une guerre contre les programmes et les algorithmes. Pourtant, je vous l'ai dit. Je suis passionné par cette intelligence et ses possibilités. Je suis reconnaissant qu'Internet me permette de communiquer sur mes spectacles. Je produis du contenu sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Threads. J'aime documenter mes efforts sportifs sur Strava, pour moi avant toute chose, mais aussi pour échanger avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que moi. Je pense que les plateformes ont été ma plus grande chance pour faire connaître mon travail. Vous avez peut-être même entendu parler de ce livre audio en consultant votre téléphone. Mon anxiété profonde vient de l'utilisation de la technologie pour organiser un commerce basé sur l'attention, en portant atteinte à notre système cognitif un peu plus chaque jour. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche, n'oubliez pas que les utilisateurs sont les victimes d'un système bien huilé, épaulé par des spécialistes de la psychologie humaine. Tout est pensé dans les moindres détails. Cela étant dit, nous nous sommes mis d'accord au début de ce livre audio pour admettre que nous sommes responsables de l'après. Si le commerce de l'attention abîme notre faculté à nous concentrer, ce que nous mettons en place une fois le constat fait est à notre charge. Vous trouverez dans les parties suivantes des ressources puissantes à appliquer pour votre attention en général. Si elles sont simples à utiliser, elles ne seront rien sans votre volonté de changer les choses. Vous allez, par exemple, devoir faire attention aux nouvelles habitudes qui se sont immiscées dans votre vie. Dans la continuité de tout ce qui abîme notre attention, nous adaptons nous-mêmes nos usages pour ne pas fournir d'efforts, participant inconsciemment à cette spirale infernale qui diminue la puissance de notre attention. La vie en x2. Un nouveau bouton est apparu près des commandes de lecture de contenu audio ou vidéo. Un bouton modérateur de vitesse. Sur WhatsApp, sur Netflix, sur YouTube, sur les applications de podcast ou de livres audio, etc., vous pouvez consommer la culture en x2. Terminez l'ennui quand tout va plus vite. Lorsque la vitesse est accélérée, ce qu'il restait de notre capacité à encoder de l'information ne peut plus suivre. Les applications mettent cet outil à disposition pour contrer ce qu'elles ont elles-mêmes créé, l'impatience. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en accélérant un contenu, il vous faudra moins d'attention pour rester devant, mais plus de concentration pour comprendre et retenir ce qu'il s'y passe. Sacha Guitry a dit un jour, « Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. » Les silences sont importants à la compréhension, mais aussi à l'appréciation. Si vous regardez un film ou que vous écoutez la chronique du jour en replay de votre émission de radio préférée, en x2, vous ne voyez plus l'œuvre telle qu'elle a été pensée. Vous manquez le lourd silence dramatique que le réalisateur avait installé pour vous surprendre, les jeux de mots cachés dans la chronique de l'humoriste, etc. Les artistes qui sont sur scène constatent ce besoin qu'a le public d'avoir un rythme toujours plus resserré. Si l'on compare le nombre de blagues à la minute d'un sketch des années 1990 et d'un sketch d'aujourd'hui, on a le sentiment que quelqu'un a utilisé un chausse-pied pour faire rentrer un spectacle entier dans un seul sketch. J'ai la chance d'être informé sur le sujet de l'attention, et je crois que j'arrive à capter correctement l'attention de mes spectateurs dans mes spectacles de mentalisme, mais j'ai adapté la construction de mon dernier spectacle à cette mauvaise habitude de la consommation en accéléré, pour que les spectateurs sortent de la salle sans s'être ennuyés, tout en préservant mon spectacle d'une accumulation de blagues qui ne me ressembleraient pas. Résistez à l'envie d'accélérer le monde qui vous entoure, pour protéger votre capacité de concentration. Ne confondez pas le rythme, dans le sens du mot « tempo », et l'accélération ou l'accumulation. Évitez le choix par défaut. Les applications, les réseaux sociaux, les jeux, l'information en ligne, tous les médias ont décidé de choisir à votre place. Pas seulement pour vous imposer leur choix, mais bien pour vous délester de cette lourde charge mentale qu'est la décision. Décidez un minimum avant d'utiliser quelque chose. Vous voulez regarder un film sur Netflix ? Décidez du genre avant de lancer l'application. En réfléchissant, vous allez peut-être même penser à une série que quelqu'un vous a conseillée. Décidez également du temps ou du nombre d'épisodes que vous voulez regarder. Netflix est aussi conçu pour vous garder captif. C'est de cette façon qu'il s'assure de la plus grande part de marché, puisque vous n'allez pas à la concurrence, qu'il peut collecter vos données, suivant ce que vous regardez et comment vous le regardez, et qu'il vend des partenariats avec des marques pour les films et les séries maison. Même si l'utilisation de Netflix est payante, les procédés sont les mêmes que les plateformes gratuites. Saviez-vous, par exemple, que les vignettes que vous avez pour les films et les séries sont des versions sur mesure faites pour vous ? Ouvrez l'application Netflix d'un ami qui a des goûts différents de vous, vous serez étonné. Ne croyez pas que vous utilisez Netflix. Vous utilisez en réalité votre version de Netflix. À quoi peuvent servir les données collectées sur vous ? D'abord, à produire des programmes adaptés à leur audience, à vendre des partenariats publicitaires dans les films et les séries. Si vous voyez clairement le héros utiliser une marque connue, ce n'est pas un hasard. Et enfin, à revendre ces données à des entreprises intéressées. Netflix a ouvert la voie et le modèle au catalogue florissant de ces dernières années, comme Prime Video, Disney+, Paramount+, etc. Le PDG de Netflix avait déclaré « Quand vous regardez une série sur Netflix et que vous en devenez accro, vous veillez tard le soir. À la marge, nous sommes en concurrence avec le sommeil, et ça fait donc beaucoup de temps. » Cette déclaration a un sens profond. Netflix ne considère pas votre utilisation comme un divertissement de votre journée, comme pouvait l'être le film de 20h30 à l'époque des 6 chaînes de télévision. Netflix et ses concurrents considèrent votre utilisation comme une activité potentiellement envisageable pour l'intégralité de votre temps d'éveil. Et ils n'ont pas tort. Celles et ceux qui ont déjà consommé une saison entière d'une série en une journée savent précisément de quoi je parle. Choisir avant d'agir va vous rendre plus conscient de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Durant l'écriture du texte de ce livre audio, il m'arrive de faire des pauses réseaux sociaux. Je décide au minimum lequel je vais utiliser et la durée que je souhaite passer dessus. Inutile d'être tyrannique sur vos engagements, vous devez juste casser la boucle infernale du choix par défaut. Ne laissez rien démarrer tout seul. Plus facile à dire qu'à faire. Imaginez que dans votre cerveau se cache une pièce blanche remplie d'ampoules. Les lumières sont éteintes, vous êtes en train de dormir. Le réveil sonne. Plusieurs lumières s'allument. La première s'éteindra lorsque vous couperez votre réveil. La deuxième, quand vous vous serez lavé et habillé. La troisième, lorsque vous aurez bu votre café. Pourtant, en faisant ces tâches, d'autres lumières vont s'allumer. Une parce que vous aurez vu qu'il faut sortir la poubelle. Une autre parce que vous vous êtes rappelé que vous aviez besoin d'un dossier important. Une autre pour penser à faire un détour par la poste, etc. À chaque fois qu'une tâche est identifiée, mais qu'elle n'est pas terminée, votre cerveau allume une ampoule intérieure et vous ne vous sentirez soulagé qu'une fois l'ampoule éteinte. Si pendant que vous travaillez, quelqu'un vous demande s'il peut vous déranger, l'ampoule s'allume et vous ne pouvez pas continuer sans lui avoir demandé de quoi il voulait vous parler. Ces ampoules s'éclairent également lorsqu'une notification sonore ou visuelle se met en marche sur vos appareils électroniques. La machine à laver qui bip, la sonnette de votre porte d'entrée, une vibration de votre téléphone. Figurez-vous qu'une nouvelle hallucination est née concernant ce dernier point. Des personnes qui croient ressentir leur téléphone vibrer dans leur poche alors qu'il est dans la pièce d'à côté. Si vous êtes en pleine conversation et que vous percevez qu'un SMS vient d'arriver, il vous sera impossible d'être concentré sans avoir lu le SMS pour éteindre la lumière ou pour en allumer une autre si le message contient une question ou vous demande de faire quelque chose d'urgent. Ce principe s'active lorsque vous scrollez du contenu sur un réseau social. Pourquoi ? En faisant défiler votre écran, vous apercevez le contenu suivant. Votre cerveau ressent un besoin d'achèvement avant de quitter l'application, et vous allez naturellement continuer votre scroll pour voir ce contenu, faisant ainsi apparaître la prochaine photo ou la prochaine vidéo. La lecture automatique des vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix, Prime Video, etc. exploite ce besoin de terminer ce qui a été entamé. Même les jeux mobiles gratuits jouent sur ce principe en créant des dizaines de chapitres remplis de centaines de niveaux rapides. Vous serez plus enclin à vouloir terminer un chapitre, surtout si les niveaux s'enchaînent vite. Prenez garde à maîtriser ce besoin de compléter une tâche que votre esprit identifie comme étant commencée. Cela demande une certaine maîtrise de soi, mais on peut se contrôler. Le secret est d'être conscient du processus pour pouvoir décider d'y résister ou d'y succomber. La vie en noir et blanc. Parmi les stimulations visuelles qui captent notre attention, les couleurs vives prennent une place assez haute sur le podium. Les publicités dans la rue, les objets de loisirs que l'on veut vous vendre, les jeux, etc. sont tous pensés pour être pétillants et stimulants visuellement. Les téléphones portables et leurs applications nous piègent en partie par cette attraction naturelle pour les belles et vives couleurs. En plus d'attirer notre attention, le biais d'exposition se met en marche. Il s'agit d'un biais cognitif qui augmente la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose au fur et à mesure que la répétition à cette chose ou à cette personne augmente. Souvenez-vous du moment où nous parlions des musiques des vidéos courtes, souvent en format vertical, auquel on s'attache. Plus une vidéo utilise une boucle musicale que nous avons entendue sur d'autres vidéos, plus nous sommes enclins à écouter la vidéo. Les couleurs vont aussi jouer un rôle de repère rassurant. Le bleu de Facebook, le rouge de YouTube, le jaune de Snapchat, etc. Azar Askin, le père du scroll infini, en plus de lutter contre sa propre invention, recommande une méthode simple mais très efficace. Changez les réglages de votre téléphone pour que tout s'affiche en noir et blanc. C'est très étonnant au début, mais vous allez constater une baisse de désir quasi instantanément. Je vous recommande de le faire au moins 24 heures à titre d'expérience personnelle. Il est très perturbant de voir que sans les couleurs, l'attrait de notre téléphone diminue drastiquement. Alors que nous étions capables d'expliquer avec des arguments solides pourquoi nous allions sur les applications. Personne ne dit jamais « j'y vais d'abord pour toutes ces belles couleurs chatoyantes ». Ce réglage se fait en général dans les options d'affichage ou d'accessibilité de votre téléphone. Sur certains smartphones, vous pouvez créer un raccourci. Faites-le pour basculer à volonté entre le mode noir et blanc et le mode couleur. Vous n'êtes pas obligé de regarder vos photos et vos films en noir et blanc, mais vous pouvez aider votre attention en sélectionnant ce mode au cours de votre journée. Conclusion. Je pense que nous subissons cette économie de l'attention parce que nous vivons dans un monde d'informations sur le présent. L'entrepreneur américain Nova Spivak expliquait dans une interview que jusqu'au 19e siècle, les sociétés vivaient par rapport à leur passé. C'était le point de fuite de leur regard et leur référentiel. À partir du XXe siècle, les sociétés ont commencé à changer leur regard de direction pour observer le futur. Moi qui étais adolescent dans les années 1990, je me souviens à quel point nous fantasmions sur l'an 2000. J'attends encore les voitures volantes et les hologrammes dignes de Star Trek d'ailleurs. Le référentiel était le futur, expliquant sûrement ce goût prononcé pour la science-fiction durant cette période. Le XXIe siècle est le siècle du présent. Nous recevons tellement d'informations en permanence, sollicitations visuelles ou sonores, notifications, actualités, hyperconnexions, que la société se retrouve écrasée sous toutes ces données, enfermée dans un présent où l'on ne fait que prendre connaissance à chaque instant. L'attention est prisonnière de ce mouvement perpétuel. Les conversations évoquent souvent l'inflation économique et la baisse du pouvoir d'achat. Pourtant, ces variations paraissent ridiculement marginales si on les compare à l'inflation du nombre d'informations et à la baisse de la capacité d'attention.